Lagunas.
Island.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Pour eux, le combat est terminé, mais après la démobilisation, il faut réapprendre à vivre. Alors que la guerre dans l'est de l'Ukraine entre dans sa quatrième année, le bilan s'élève désormais à plus de 10 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Près de 2 millions de personnes ont été déplacées. Au moins 300 000 Ukrainiens ont été mobilisés dans l'armée par vagues successives. Pour ceux qui sont démobilisés, le retour à la vie civile n'est donc pas toujours évident. Des volontaires tentent de créer pour eux un programme de rééducation par le sport en leur permettant de participer à une compétition internationale, les Jeux Invictus, en Ukraine. Le reportage de Sébastien Gobert.
L'homme enlève calmement sa veste et se hisse de son fauteuil roulant à la seule force de ses bras. Il se met en position sur une planche d'entraînement, tandis que des entraîneurs ajustent les haltères, 100 kilos, et au signal, le sportif tente de les soulever sous les encouragements de la foule. Et il y parvient. Rapidement, le sportif se retire de la planche pour laisser la place à d'autres compétiteurs. Ce 22 avril, il fait très froid à Kiev. Ils sont pourtant 144 à prendre part à une série d'épreuves sportives de plusieurs catégories. Loin d'être tous des sportifs accomplis, mais tous des vétérans de la guerre du Donbass, à l'est de l'Ukraine.
C'était un tir de mortier 120 mm près du port de Mariupol.
Pavlo Mamontov a 24 ans. Il se remet à peine d'une grave blessure à la jambe, pour laquelle il a dû aller se faire soigner pendant plusieurs semaines en France, près de Montpellier. Cela n'empêche, il s'entraîne désormais pour la course à pied, au vélo et au rameur, dans le cadre des qualifications aux Jeux Invictus. Inspirée des Jeux Paralympiques, cette compétition multisport se tient chaque année depuis 2014. Elle va réunir plus de 500 vétérans de guerre de 17 pays, en septembre à Toronto, au Canada. C'est la première fois que l'Ukraine y participe. Pavlo Mamontov.
C'est une idée très intéressante, ces Jeux Invictus. Le concept est fait pour redonner une motivation et de l'espoir aux vétérans. Moi, ça m'a donné envie de participer.
Englué dans une guerre sans issue contre les forces russes et séparatistes pro-russes, l'Ukraine peine à assurer la réinsertion de ses vétérans. Oksana Orbach a observé le problème d'alcoolisme, de détresse sociale et familiale, voire des cas de suicide, qui hantent les soldats à leur retour de la guerre.
Le sport est une bonne motivation pour prendre sur soi et aller à la rencontre d'autres personnes. En faisant du sport, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Mais on est présent, actif, et ça, ça fait du bien.
De fait, la plupart des candidats à la sélection d'Invictus n'ont pas de séquelles physiques. Mais beaucoup souffrent de troubles psychologiques après leur passage au front. Oksana Orbach est une bénévole. Avec une poignée d'autres volontaires, elle a pris l'initiative de constituer une équipe nationale pour les Jeux Invictus. Elle ne se place pas en opposition face à l'État, mais elle ne reçoit qu'un soutien très limité de sa part.
Le soutien psychologique, la réinsertion sociale, la rééducation par le sport ne sont pas des priorités pour notre gouvernement.
Grâce aux Jeux Invictus, Oksana Orbach tente de valoriser l'idée d'une rééducation par le sport et de produire des résultats durables.
Nous avons vraiment besoin de programmes de rééducation par le sport qui soient financés et soutenus par l'État. Je vois énormément d'initiatives, ici et là, organisées par des volontaires de la société civile. Et c'est toujours très limité en termes de ressources. Cela se tient de manière très ponctuelle, avec une dizaine ou une vingtaine de vétérans. Ce n'est pas un programme qui peut avoir un impact au niveau national.
Des sessions de préqualification se sont déroulées dans plusieurs régions d'Ukraine. À Kiev, les volontaires ont organisé des sessions d'entraînement régulières au cours des derniers mois. Viens qui veut, qui peut, dans des endroits tout aussi improvisés que des jardins de la ville ou des salles de sport public.
Nous les accompagnons autant que nous pouvons pour les familiariser avec les règles de la compétition.
Natalia Lebedeva est entraîneuse sportive. Avec son mari, coach également, elle aussi donne de son temps quelques soirs par semaine pour accompagner les vétérans.
Pour la course du 100 mètres, par exemple, il y a des règles spécifiques sur le positionnement, les mouvements, le départ, l'arrivée. Ceux qui vont aller au Canada vont être confrontés à des athlètes américains ou français qui seront mieux entraînés. Quand ils ont commencé à s'entraîner, Nogan ne connaissait rien à ces règles, donc on s'entraîne.
D'un entraînement à un autre, les résultats se sont fait sentir. Et pas seulement les performances sportives, mais aussi la bonne humeur et l'esprit d'équipe.
Le plus important, ce n'est pas de gagner, mais c'est leur optimisme, leur joie de vivre. Ils s'entendent bien, se bâtissent un nouveau groupe d'amis et luttent contre leur traumatisme. Les héros ne sont pas seulement là-bas, sur le front, mais aussi ici. En fait, ici, ce sont même de plus grands héros.
Après la série de qualifications du 22 avril, ce sont 30 athlètes qui ont été sélectionnés pour partir à Toronto. Cette sélection, le jeune vétéran Pavlo Mamontov en fait partie. Une belle occasion de prolonger l'aventure, même si pour lui, les médailles, ce n'est pas le plus important.
C'est bien plus que du sport en fait. La victoire, oui, ce serait bien. Mais ce que l'on vit, ce sont des émotions, du soutien moral, vraiment quelque chose d'autre.
Confrontée à un conflit qu'elle n'avait pas anticipé, l'Ukraine cherche à en pallier les conséquences. Pour des dizaines de milliers de vétérans, meurtris dans leur chair et dans leur esprit, il s'agit de repenser la vie après la guerre.
En Macédoine, la situation n'a pas encore dérapé, mais elle reste tendue. Il y a une semaine tout juste, le Parlement était pris d'assaut. Derrière ce coup de force, le parti nationaliste conservateur qui refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite aux dernières législatives. Il assure être le seul à pouvoir défendre l'unité de la Macédoine et s'appuie sur une nébuleuse d'ONG patriotiques récemment créée. Précision de Simon Rico.
Il était environ 17h le 27 avril quand une centaine d'individus, dont plusieurs cagoulés, ont envahi le bâtiment du Parlement macédonien en hurlant « C'est un putsch ». Les forces de police complètement débordées ont assisté impuissantes à l'attaque. Bilan des dizaines de blessés, dont plusieurs parlementaires. Une députée a été traînée au sol par les cheveux, tandis que les images du chef du Parti social-démocrate, la chemise en sang, faisaient le tour des réseaux sociaux. Il aura fallu attendre l'intervention des forces spéciales 5 heures plus tard pour que le calme ne revienne. Tout avait commencé juste après l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale d'un député issu de la minorité albanaise que les nationalistes conservateurs tentaient de bloquer. Depuis 2 mois, leurs partisans défilent dans les rues du pays pour défendre les intérêts de l'État macédonien et son intégrité territoriale. En tête des cortèges, les militants de la vingtaine d'ONG patriotiques qui ont vu le jour dès le début de cette révolte chauviniste. Aisément reconnaissables avec leurs t-shirts noirs et leurs crucifix, ils prétendent poursuivre le combat initié par la résistance contre l'occupation ottomane au début du XXe siècle. Avec dans leur viseur la coalition majoritaire formée par les sociaux-démocrates et les partis albanais qu'ils considèrent comme une cinquième colonne. Selon plusieurs sources, ces chemises noires nouvelle génération ont infiltré les forces de l'ordre et les services de sécurité privés, ce qui expliquerait le peu de réaction de la police lors de l'assaut du Parlement.
Après un débat particulièrement violent mercredi soir entre les deux candidats à la présidence de la République française, les électeurs choisiront dimanche le nom du 8e président de la 5e République, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Un président doté de pouvoirs très importants et qui, hors période de cohabitation, est le véritable chef de l'exécutif. Ce qui fait de la France une exception institutionnelle en Europe. Mais chez nos voisins européens, les chefs d'État, qu'ils soient monarques ou présidents, n'ont pas toujours un rôle purement symbolique. Ce dont nous parlons aujourd'hui avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors, le président français est élu directement au suffrage universel. C'est cela qui le distingue de ses homologues européens ?
Pas du tout, Laurent. Au sein de l'Union européenne, 12 chefs de l'État sur 21 présidents sont élus au suffrage universel direct. Outre la France, c'est le cas en Finlande, Irlande, Portugal, Autriche, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Lituanie, Slovénie, Croatie et à Chypre. À tous ces présidents, le suffrage universel confère une légitimité populaire.
Mais est-ce que cette légitimité leur donne des pouvoirs comparables à ceux du président français ?
Autant de pouvoirs ? La réponse est clairement non. En France, le président dispose d'un certain nombre de pouvoirs propres, dont certains sont assez largement partagés par ses homologues européens, comme la fonction de chef des armées, la nomination du Premier ministre, voire le droit de grâce. En revanche, il détient trois types de prérogatives qui ne se retrouvent pas ailleurs. D'une part, il décide seul de l'emploi de la force nucléaire. D'autre part, il négocie les traités et conduit la délégation française dans les rencontres internationales. Enfin, il a le pouvoir discrétionnaire de dissoudre l'Assemblée nationale après une simple consultation du Premier ministre. C'est un pouvoir propre qui n'a aucun équivalent en Europe.
Vous voulez dire, Daniel, que ce droit de dissolution du chef de l'État n'existe pas ailleurs en Europe, hein ?
Si, dans de nombreux pays, le chef de l'État dispose du droit de dissolution, mais il est strictement encadré et conditionné par un blocage institutionnel ou politique rendant impossible la formation d'un gouvernement. C'est notamment le cas en Allemagne, Italie, Espagne, Portugal. Mais nulle part, la dissolution d'opportunité, comme l'avait pratiqué Jacques Chirac en 1997, n'est possible. La seule exception de ce type a bien existé en Finlande jusqu'à l'an 2000. Avant cette date, le président pouvait dissoudre le Parlement de façon assez discrétionnaire. Ce pouvoir est passé désormais au Premier ministre, mais le chef de l'État finlandais continue de partager avec son Premier ministre le pouvoir exécutif. Il a un droit de veto sur les lois, un droit d'initiative législative et joue un rôle non négligeable en matière de politique étrangère. Au Portugal, le président peut dissoudre après consultation du Conseil d'État et des partis politiques. Et en Irlande, il peut le faire sur le conseil du Premier ministre, mais notons-le, le président peut refuser cette dissolution conseillée.
Alors Daniel, dans les autres pays européens, est-ce que la fonction de président est purement honorifique ?
Pas complètement. Dans les pays où il est directement élu, le président a toujours un pouvoir d'influence sur la politique étrangère et en cas de crise grave, il a un rôle de conciliateur et de facilitateur. Mais c'est aussi le cas dans les pays où le président est élu par les chambres et notamment en Italie où le président a le choix d'une solution constitutionnelle en cas de chute du gouvernement. Ou bien il décide d'élections anticipées ou bien il cherche à constituer une nouvelle majorité au Parlement. En Allemagne, le président peut dissoudre le Bundestag si ce dernier ne parvient pas à élire un chancelier.
Alors, qu'en est-il maintenant des chefs d'État qui sont des monarques héréditaires ?
Bien sûr, en Angleterre, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, le monarque est avant tout un symbole et se cantonne dans un rôle de pure représentation. Mais là encore, en cas de crise, il peut jouer une partie décisive. En 1981, on s'en souvient, la tentative de coup d'État en Espagne avait avorté en grande partie grâce à l'action décisive du roi Juan Carlos qui avait fermement condamné l'action des putschistes. En Belgique, c'est déjà arrivé, le roi peut refuser de promulguer une loi. Quant au souverain britannique, il peut encourager ou mettre en garde. Il joue aussi un rôle en cas de majorité très courte à la Chambre des communes. Mais sa magistrature est avant tout morale.
Alors en résumé, Daniel, le chef de l'État français est de loin le plus puissant d'Europe ?
Sans conteste, et cela parce que la Constitution française actuelle a instauré un régime hybride à la fois parlementaire et présidentiel. Un cas unique à une semi-exception près, celle de la Finlande, dont la Constitution aurait d'ailleurs, dit-on, en partie inspiré celle de 1958 en France, mais qui s'est parlementarisée depuis. En revanche, si l'on considère le continent européen, un autre président dispose de nombreux pouvoirs, c'est le président russe. Il est même plus puissant que le président français puisqu'il entérine formellement la nomination des ministres et qu'il peut les démettre ainsi que le Premier ministre. En outre, il dirige directement les ministères sensibles de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères et définit les grandes orientations de la politique intérieure et extérieure. En pratique, c'est ce que fait également le président français, mais ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Pour terminer, Vladimir Poutine dispose également du droit de dissolution. Il peut légiférer par décret et même opposer son veto aux lois votées par le Parlement. Bref, c'est une hyper-présidence parfaitement inscrite, à la différence de la France, dans la Constitution. Reste que si l'on s'en tient à l'Union européenne, les chefs d'État ont assez peu de pouvoir. Cela dit, ce sont toujours des personnalités respectées. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, où le chef de l'État est au centre de l'arène politique et, comme tel, sujet à contestation.
Merci Daniel Vigneron. Analyse à retrouver sur votre site myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Estonia, Lithuania, Belarus, Poland, and Ukraine. Moldova, Rome, eat some Bulgari. Greece, pieces, Macedonia, Albania, and Kosovo. Montenegro, Serbia, and Bosnia. Croatia, Slovenia, not Hungary. Slovakia plays checkers north of Aussie. Switzerland, Japan, and Nice.
100 000 jeunes européens bénévoles devraient intégrer le nouveau corps européen de solidarité d'ici 2020. Plus de 20 000 d'entre eux se sont d'ores et déjà inscrits à ce nouveau programme qui leur permettra, dans quelques semaines, de travailler dans leur pays ou ailleurs en Europe pour aider des communautés ou des personnes. Alors, quelles sont leurs motivations? C'est ce que Lakshmi Lotha a cherché à savoir lors d'un forum organisé récemment à Bruxelles.
J'ai entendu la publicité pour le corps européen à la radio et je me suis dit, pourquoi pas? Je pense que nous devons donner un sens à notre vie. Je suis un grand fan de l'Union européenne, alors pourquoi pas?
Ce sont de jeunes Européens convaincus, comme Thomas, stagiaire allemand, qui sont réunis à Bruxelles ce jour-là. Un forum sur le corps européen de solidarité est organisé. Parmi les participants, Charlotte, résidente française en Belgique, elle est étudiante en relations internationales, Mounia, étudiante en droit à Paris, et Xavier, actuellement à la recherche d'un emploi. Étudiants, employés ou chômeurs, tous ces profils peuvent s'inscrire pour faire partie du corps européen de solidarité. Charlotte, Mounia et Xavier ont en tête l'euroscepticisme qui règne actuellement. C'est pour cela qu'ils s'engagent.
C'est inter-européen, c'est intra-européen. Et donc les Européens vont aider d'autres Européens. Et je pense que ça peut contribuer à créer une identité européenne un peu plus prégnante, qui n'existe peut-être pas encore chez tout le monde ou la renforcer.
Après le Brexit, on a parlé de Nexit, de Frexit, et ça a justement fait grandir mon sentiment européen.
C'est une très 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 bonne idée qu'il faut continuer, qui est nécessaire actuellement, parce que quand on voit la montée des extrêmes, aussi bien en France ou encore au Danemark, et hélas aussi en Allemagne, donc ce type de projet fédérateur, c'est vraiment de très bon augure.
Xavier espère partir au moins 6 mois au Royaume-Uni ou en Grèce pour se faire des contacts en vue d'un futur emploi. Le juriste veut entrer dans le vif du sujet.
Actuellement, je me suis engagé auprès d'une association d'aide aux réfugiés LGBT. Pour moi, ces thématiques qui sont liées à l'asile, d'attaquer sur des choses de concrètes de l'Union européenne, je trouve ça très valorisant et très intéressant.
Mounia, elle, voudrait partir 1 an, peu importe l'endroit. Elle s'est inscrite en précisant déjà ce qu'elle souhaite faire, apporter une aide juridique aux réfugiés, mais elle n'attend pas de retour par rapport à sa carrière.
Justement, bizarrement, je pense que ça ne va rien m'apporter. Je fais du droit des investissements, ça n'a rien à voir. Et justement, c'est ça que je trouve beau en fait. C'est vraiment une expérience, je pense, plus humaine et en tant que citoyen vraiment européen et du monde au final.
Pour l'instant, les inscrits ne savent pas encore où ils vont aller ni quand ils partiront. Ce sont les ONG, entreprises et collectivités qui les contacteront selon leurs besoins. Charlotte aussi souhaite partir 1 an en septembre à la fin de ses études.
Pour l'instant, j'ai aucune idée des postes qui pourraient être à pourvoir, mais je pense que ça peut être vraiment très dans l'action comme administratif. À mon avis, il y a vraiment de tout. Alors moi, soit être un peu plus dans l'action, soit plus rapporté, soit par rapport aux migrants, soit par rapport à la violence faite aux femmes, par exemple, ou l'insertion des femmes dans la société. C'est ça qui peut nous amener à avoir un bon job plus tard. Donc voilà.
Un projet qui suscite des vocations. Andy Vermouts, belge, la cinquantaine, est membre d'une association et regrette de ne pas pouvoir faire partie du corps européen de solidarité à cause de son âge.
Je pense que c'est très important d'ouvrir ça parce qu'on a beaucoup de vieux personnes en Europe et ça devient un groupe plus grand. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de but. Ils cherchent un but, ils sont pensionnés, ils veulent faire des choses, mais ils ne sont pas mis dans ce programme. Parce qu'ils disent maintenant, jusqu'aux 30 ans, on peut faire quelque chose. Et c'est ça que j'ai un problème. Puis on doit avoir les gens qui sont plus vieux dedans. On doit ouvrir ça pour tous les groupes qui veulent faire quelque chose.
Mais le président de la Commission européenne a été clair, c'est la jeunesse qui fera l'Europe de demain. Jean-Claude Juncker.
L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est imparfaite. Parce que nous ne prenons pas suffisamment soin des autres. Dans la morosité qui nous entoure, il faut donner des lueurs d'espoir. Donner des lueurs d'espoir aux autres et avec vous est une ardente obligation.
Les missions pourront se faire dans le cadre du bénévolat, d'un stage ou même en tant qu'employé et durer de 2 à 12 mois. L'Union espère faire participer 100 000 jeunes citoyens européens d'ici 2020. Les premiers partiront au mois de juin.
On se retrouve demain dès 17h40 pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe réalisée par Françoise Grelot.